Je vous invite à prendre dans la lettre à Philémon, des versets 8 à 20. Esclave du Seigneur, utile ou inutile ? Tel sera le thème de notre prédication aujourd'hui. Philémon, versets 8 à 20, c'est juste avant l'épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi Paul qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi, dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. Esclave du Seigneur, utile, inutile. Quelles sont les circonstances de cette lettre ? Prenons Actes 28, 30, 31. Actes 28, 30, 31. C'est la fin du livre des Actes. Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Au verset 23, nous avons la même définition de l'Évangile. Paul leur a fait un exposé, il a rendu témoignage du royaume de Dieu et a cherché à partir de la loi de Moïse et des prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'annonce du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Et en fait, Onésime, cet esclave, est en fuite. Il habitait Colosse, donc une ville à l'est d'Éphèse, en Asie mineure. Et donc il s'est enfui de son maître, Philémon, et il est parti à Rome rejoindre des congénères. Et là, il a rencontré Paul. Paul qui, en résidence surveillée, annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ, du salut de Jésus-Christ, réalisé à la croix, le pardon des péchés, la mise en œuvre du règne de Dieu, du royaume de Dieu rendu proche. Et Onésime s'est converti. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, par rapport à cette annonce de l'Évangile, eh bien, Paul va faire ici une chose complémentaire et qui va beaucoup l'engager. Il va utiliser la loi romaine pour s'offrir à être l'ami de Philémon et donc être le garant de la remise du règlement de situation de l'esclave en fuite. Il faut se rendre compte que ça a engagé énormément Paul. Je voudrais que vous sachiez, que vous méditiez cela. Car en fait, en s'offrant à être le médiateur, une procédure de l'administration romaine tout à fait, je veux dire, classique, hein, bah en fait, ça a entraîné que, en fait, Onésime devait retourner auprès de son maître, Rome, Éphèse, Colosse. C'est loin. Et quand vous faites ça par bateau, c'est très long, surtout à l'Antiquité. Donc, c'est au minimum 3 mois, en comptant tous les aléas. 2 à 3 mois. Et si c'est pour le retourner à Rome, parce qu'il espère le retrouver pour être son serviteur, c'est au moins 4 à 6 mois, voire plus. Paul aimerait que Onésime soit son collaborateur. Cet esclave devienne quelque part son collaborateur, et non plus celui de Philémon. On va voir dans les quelles circonstances. Il est prêt à se séparer de lui pendant 4 à 6 mois, voire plus. Pourquoi ? C'est très important. Pour tenir compte des lois qui gouvernent ce monde. Bien sûr, ces lois sont injustes, bien souvent, et notamment d'ailleurs la situation de l'esclavage est une situation d'injustice. Eh bien, Paul va choisir de respecter ces lois du monde. Car en fait, quand Jésus nous sauve de ce monde qui ne va pas, de ce péché de décréation. Mais qui a créé le monde ? C'est Dieu et il aime ce monde. Jean 3, 16, 17, vous connaissez bien le verset. Il a tellement aimé son fils unique qu'il a envoyé son fils. Hein ? Oui, son fils, pour que chacun qui croit en lui ait la vie éternelle. Mais j'essaie de résumer parce que je n'ai pas tellement de temps. Hein ? Dieu n'a pas envoyé son fils pour le juger, puisque nous redirons tout le verset, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Retenez que dans la Bible, le mot monde, cosmos, a 99% de son usage, c'est organisation du monde, et non pas monde en tant que tel. Quand on parle mal du monde, et c'est la vérité, parce que le monde fonctionne mal, la Bible le dit, hein, il parle du fonctionnement depuis le péché, un fonctionnement de décréation, de violence. Et donc Dieu veut, c'est sa volonté, sauver ce monde. Et Jésus le fait à la croix, d'une façon magistrale. C'est ça l'évangile du salut. Et en même temps, donc je reviens là-dessus, Paul choisit de se plier à cette loi romaine, mais qui lui coûte énormément, parce que d'une part, pendant 6 mois, il n'a pas son collaborateur, et d'autre part, je vais vous dire une chose, si pendant les 4 mois de traversée, 5 mois de traversée, l'esclave en fuite prenait le goût de fuir à nouveau, le médiateur ami du propriétaire qui voulait arranger la situation de façon légale, encourt la colère de Rome. Donc je voudrais que vous mesurez, c'est pas rien ce que fait Paul là. Et en plus, non seulement vous voyez ça, il est prêt à racheter l'esclave. À l'époque, 1000 sesterces. C'est pas mal comme somme déjà. Hein ? Donc c'est pour vous dire, le choix que fait Paul, et nous devons le méditer, à la fois l'annonce de l'évangile, à la fois, donc, c'est sa fonction de diffuser cette bonne nouvelle du salut, en Jésus-Christ, à la croix, et à la fois, eh bien, il tient compte des lois de ce monde, même si elles sont injustes. Et toi, et moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie ? Est-ce que je dis que je suis chrétien, donc je vais vraiment franchir de ce monde qui est mauvais, et ce qui compte, c'est le ciel, c'est vivre selon Dieu ? Mais bien sûr, c'est important, c'est le principal, c'est le cœur même des choses. Oui, mais en même temps, puisque Dieu veut sauver ce monde, qu'est-ce qu'a dit Jésus ? Fais-toi des amis avec les richesses injustes. Lisez Luc 17, la parabole du serviteur inutile. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Donc ne soyons pas du monde à fonctionner comme le monde, parce qu'on n'est pas du monde, on est sauvé par Christ, on appartient à Dieu, notre maison est céleste, elle est en Dieu et non pas dans l'esprit de ce monde, gouverné par Satan. Mais en même temps, il t'a créé, il m'a créé pour vivre en ce monde. Quel regard as-tu sur ce monde ? Est-ce que tu fais attention à toujours rester en contact avec ce monde en utilisant ses lois, même injustes, pour conserver le contact. Fais-toi des amis avec les richesses injustes. Paul l'a fait, et ça aurait pu lui coûter très cher. On peut s'étonner que ce petit billet, la lettre à Philémon, bon, c'est une page, hein, de ma Bible, 25 versets, elle soit dans la Bible, et elle est dans la Bible, elle est dans le Nouveau Testament. Et même, il n'y a jamais eu de contestation de qui que ce soit pour dire qu'il n'est pas dans la Bible, ce petit billet. Il est donc important. Il est important pourquoi ? Parce que Paul nous indique, Paul nous apprend, inspiré par le Saint-Esprit, comment vivre une situation injuste, et notamment l'esclavage. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire une exégèse de la lettre au Philémon, on fait la thématique « Esclave du Seigneur, utile, inutile ». Parce que mes amis, dans nos Bibles actuelles, c'est très souvent traduit par « serviteur ». Serviteur de Dieu, Paul, serviteur de Dieu, apôtre, serviteur de Dieu, etc. C'est un sens dérivé, mais très minime, dans l'Antiquité, très minime. 98% des cas, c'est « esclave », parce que c'est la réalité de l'Antiquité. Esclave. Philémon était esclave, et bien toute la Bible écrit que nous sommes des esclaves de Dieu. Nous sommes des esclaves de Dieu. Et croyez-moi que c'est lourd de conséquences, alors qu'en marque serviteur, tout ça est estompé. Esclave, dans l'Antiquité, c'est une catastrophe. L'homme libre d'abord. L'homme libre, c'est quelqu'un qui est créé par une divinité, par la divinité, je parle selon, globalement, par la divinité. Il est créé pour gérer la terre avec d'autres, accomplir une fonction, je le répète souvent, mais c'est aussi dans la Bible. Et à ce titre, puisqu'elle a été dotée d'une fonction par la divinité, il mérite le respect. Et c'est pour ça que l'homme libre est respecté, il a sa place dans la société. Alors, l'homme esclave maintenant, catastrophe. L'homme esclave perd sa dignité d'humain. Ça devient, écoutez bien, un bien. Pourquoi a-t-il perdu sa dignité d'humain ? Ils ont eu des réponses. Soit parce qu'il a un comportement, il a eu un comportement horrible qui fait qu'il ne mérite plus la dignité d'humain. Soit sa nation s'est mal conduite et donc les dieux, Dieu, nous croyons un Dieu unique, nous évidemment, mais je parle de l'Antiquité, eh bien, l'effacement de cette nation ou un châtiment de cette nation, d'où le rendu en esclavage. Mais comprenez bien que c'est fondamental. Et honnêtement, soyons réalistes, arrêtons de lire spirituellement les choses de la Bible. Quand tu lis esclave, parce que serviteur c'est esclave, croyez-vous qu'un esclave choisissait ce qu'il veut faire ? Bah évidemment que non. L'esclave, il était obligé d'accomplir l'ordre du maître. Il remplissait la tâche, la fonction que le maître lui donnait. Et c'est pour ça que nous sommes esclaves de Dieu. Parce que le maître, notre Dieu, t'a déterminé. Il t'a créé, il t'a donné des talents, etc., pour que tu accomplisses une fonction et que tu contribues justement au bon fonctionnement de la terre, comme je l'ai dit, selon la volonté, mais du Dieu unique cette fois-ci, évidemment, notre Dieu. Nous sommes esclaves, nous n'avons pas à choisir nos projets, nous devons réaliser les projets de vie que Dieu nous donne. Alors il y en a plusieurs, ils sont pluriels, et ils peuvent être déterminés, la Bible nous le montre. À la fois, il y a des appels directs de Dieu, où la personne sait la fonction qu'elle reçoit. D'autres, eh ben, c'est au niveau de la collectivité que ça se détermine ensemble, au sein de l'Église, ou avec des conseillers, même extérieurs. Mais chaque fois, bien entendu, cette fonction, c'est pour établir le règne de Dieu et pour vivre et exister selon les lois du Seigneur, évidemment. Évidemment. Et toutes les fonctions dans la Bible sont magnifiques, elles sont belles. Je me permets de faire une aparté parce que j'ai oublié de vous dire une chose, je voudrais vous montrer l'excellence de la parole de Dieu. Nous avons une parole, la Bible, qui est extraordinaire. Je vous ai parlé de l'esclave qui devient un bien. Ben, je n'ai pas été correct. Ça, c'est vrai pour le paganisme. Parce que dans la Bible, c'est plus vrai, c'est pas vrai. Vous lisez Deutéronome 15, Deutéronome 23, vous découvrez cette chose extraordinaire, unique, unique. Même esclave, l'esclave reste un homme. C'est tout à fait différent du reste du paganisme. Et vous lisez les choses, mais c'est incroyable. Lisez, lisez pour dire un peu la puissance de la parole de Dieu. Je suis un esclave hébraïque. Voilà, j'appartiens à un maître hébraïque. Ben, mon maître ne peut me garder que 6 ans. La 7e année, qu'est-ce qui se passe ? Il est obligé de me dire, que choisis-tu, Pierre ? Est-ce que tu veux continuer à me servir ou est-ce que tu veux vivre par toi-même que je te libère ? Réponse. Si je dis, je veux te quitter et être libre et m'établir, tenez-vous bien. Le maître est obligé d'accepter et il est obligé de lui donner un pécule pour qu'il puisse s'établir dans la ville qu'il voudra. Israël, évidemment. Rendez-vous compte ? Mais il n'y avait nulle part ça. Vraiment la défense de l'esclave. Une femme hébraïque, butin de guerre, les autres, je ne sais pas, mais une femme hébraïque, butin de guerre, tenez-vous bien, ça ne se passait absolument pas dans l'Antiquité, dans les autres nations. Si elle refusait d'appartenir sexuellement à son maître, il était obligé de la libérer. Au début, quand elle arrivait, quand elle était prise en butin de guerre. Mais ça se voyait nulle part. Ça se voyait nulle part. Si, chez les Hébreux, la parole de Dieu, la dignité humaine, c'est tout ce qui fonde. Parce que la personne a été créée par Dieu pour remplir une fonction. Donc toutes les fonctions sont égales en dignité. Quand vous lisez les épîtres au début, vous avez remarqué comment ils se présentent, très souvent les écrivains bibliques. Romains 1:1, Paul, apôtre et esclave de Dieu. Donc c'est esclave d'abord, il me semble d'ailleurs, c'est esclave et apôtre de Dieu. Donc il est d'abord en situation, parce que c'est la situation de l'homme, esclave devant Dieu, et puis là, sa fonction qu'il a reçue, apôtre. Allez à Pierre, 2 Pierre 1:1, Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ. Allez au début de l'épître de Jacques. Jacques, comment il s'écrit ? Il dit, moi je suis le frère du Seigneur Jésus. Non, il dit pas ça. Il dit esclave de Jésus-Christ. Et frère, je pense. Vous lisez Jude, pareil, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques. Jean dans l'Apocalypse, comment il parle des chrétiens ? Apocalypse 1:1, lisez-le. Dieu a donné une révélation à travers Jésus-Christ pour qu'elle soit connue de tous ses esclaves. Et il fait appel à Jean, esclave. Lisez le début d'Apocalypse. Il est marqué serviteur, mais c'est le mot esclave. C'est le mot esclave. Nous sommes tous des esclaves. Toute la Bible en est rentrée. Ne biaisons pas. Acceptons-le, avec ce que ça comporte aussi, avec ce que ça comporte. Alors, sommes-nous des esclaves utiles, inutiles ? Relisons Philémon, comment Paul parle d'Onésime. Je t'adresse, verset 10, cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. Vous voyez, là, il y a autrefois inutile, maintenant utile. Alors, on va s'arrêter un peu plus là-dessus parce que c'est important. Souvent, on a entendu dire, et on peut penser, est-ce que je suis utile à quelque chose ? Est-ce que vraiment je suis utile ? C'est important, ça. Ça peut tarauder l'âme. Être utile, inutile. D'abord, Onésime. Onésime veut dire utile. Et ça, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'Onésime est un enfant d'esclave. Il est né à l'intérieur d'un domaine déjà esclave, et donc il porte des non-projets de vie utiles. Tu sers à ton maître. Tu es utile à ton maître, puisqu'il il est un bien, et il doit concourir au projet du maître. Onésime, utile. Oui, d'accord. Mais là, Paul, lorsqu'il dit « utile », après... autrefois, il t'a été inutile, maintenant il est bien utile. C'est plus le même mot qu'il emploie. Il emploie un couple de mots, akrestos, ekrestos, donc krestos, qui n'est pas de la famille du nom Onésime en grec. Et ça, c'est important. Il faut qu'on le regarde. Il y a une chose derrière, à étudier. C'est pas la même chose. Alors, akrestos, ça veut dire inutilisable, parce que faillible, donc non utilisé. C'est le sens profond du mot. inutilisable, inutile, non utilisé. Par le sens par rapport à ce contexte. Et puis, Eucrestos, après la... Il a écouté l'Évangile, il s'est converti au Seigneur Jésus-Christ, hein, à Rome, en écoutant Paul, et là, et il devient utile. Alors, tenez-vous bien, auparavant, il était inutile à Philémon, inutilisable par Philémon, et maintenant, il devient d'un bon usage, c'est le mot, Eucrestos, d'un usage commode, disponible, pour et Philémon et Paul. Il y a un sacré changement. Il y a un sacré changement, là. Hein ? Arrêtons-nous là-dessus. Onésime, non converti, est inutilisable, pour simplifier les choses. Converti, il devient utilisable, mais facilement, de bon usage. On sent l'efficacité pour remplir son service. Nous sommes bien dans le domaine de l'esclave, hein ? Appliquons-nous à nous. Qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui a fait cette transformation de situation chez Onésime ? Tout simplement, sa conversion à Christ. Jésus dit à Nicodème, il te manque, à ce docteur hein, qui connaissait bien l'Ancien Testament et tout, il dit, ah, mais t'as oublié quelque chose d'important ? Ah, ben, il te manque quelque chose de très important. Est-ce que tu connais la naissance d'en haut ? Je le dis à ma façon, je résume. Hein, on va pas lire. Mais, il ne connaît pas la naissance d'en haut, l'esprit. Il n'est né que de façon terrestre. Il a une sagesse terrestre, peut-être livresque au niveau de l'Ancien Testament, mais il lui manque cette partie céleste, cette naissance, cette deuxième naissance, la naissance d'en haut. Recevoir l'esprit, le Saint-Esprit et son esprit céleste. La différence entre les deux, on a compris, entre Onésime avant sa conversion et Onésime après sa conversion, effectivement, il est recréé, il est rendu complet, il est rendu achevé et il devient efficace, d'un bon usage, disponible pour remplir sa mission. Mais ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils l'ont conservé, entre autres, dans le Nouveau Testament, parce que c'est essentiel. Nous sommes tous esclaves de Dieu, esclave de Jésus-Christ. Je rappelle même que j'enfonce le clou. Paul, qu'est-ce qu'il dit quand, de l'incarnation du Christ ? Qu'est-ce qu'il dit, Paul ? Ben, il dit, c'est Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 7, si je m'en souviens bien. Il a pris la forme d'esclave. Nous en avons dit serviteurs, mais non. Prenez le sens tel qu'il est, respectez les paroles de la Bible. Il a pris la forme d'esclave. Même Jésus-Christ, notre Dieu incarné, a choisi de prendre la forme d'esclave. Alors je m'empresse de dire, un petit aparté, on est esclave de Dieu, mais notre maître, il est bon. Hein. Notre maître, il nous aime. Et on va voir que notre maître nous aime énormément. Hein, on dit esclave, mais ne noircissons pas le maître. Hein. L'esclave, c'est par rapport à notre situation, notre statut de remplir nos fonctions. Mais en même temps, la Bible dit que tu es un enfant adoptif. Hein ? Donc, Dieu nous aime, notre maître nous aime. Hein ? Pourquoi Paul peut être si affirmatif qu'un chrétien, une chrétienne convertie est utile, utilisable, d'un bon usage, efficace ? Se poser des questions, des fois on se sent bien petit. Hein, bon, pourtant c'est pas ce que dit Paul. Efficace, bon usage, je répète exprès. Pourquoi ? Galates 2:20, on va le lire. Galates 2:20. J'ai été crucifié, c'est Paul qui parle, avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est chacun d'entre nous, j'espère. C'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Il est affirmatif parce que l'esclave du Seigneur qui fait la volonté du Seigneur, sa fonction, qui s'est d'abord converti, qui a été recréé, la naissance d'en haut, qui est venu compléter. Christ vit en lui. Christ agit en lui au travers du Saint-Esprit et de son Esprit céleste. C'est sa mesure de foi, le mot foi. Hein. Il accomplit. C'est pour ça que l'apôtre Paul est si affirmatif. Mais prenons-le comme parole d'évangile. Je fais exprès de dire ça. Prenons-le, c'est biblique, c'est vrai. Soyons sûrs. Soyons sûrs. Christ vit en moi. Je suis efficace. Alors, ça, bien sûr, ça responsabilise. On ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Quand on reçoit la vie plénière divine créatrice qui ne s'use pas, pour réaliser sa fonction, eh bien, en fait, on est interpellé. Est-ce que, oui ou non, je remplis ma ou mes fonctions, qui sont diverses, je le rappelle, hein, et tout importante, et tout aussi belle, et tout aussi digne, je rappelle. Je voudrais maintenant vous parler de la merveilleuse grâce surabondante de notre Seigneur Jésus-Christ. La tradition de nos églises insiste, on l'a encore rechanté, et c'est vrai, à la croix, Jésus me sauve de mes péchés, il me libère de la malédiction du péché, il me donne la bienveillance de Dieu, il me justifie, c'est vrai tout ça, c'est vrai. Et quelle grâce extraordinaire, tu l'as rappelé, on mourrait peut-être pour un homme injuste, et déjà on serait un héros, mais alors mourir pour un homme injuste, voilà, enfin... Donc ça, c'est vrai. La grâce, elle est là. Oui, ben excusez-moi, elle est là, c'est vrai, mais Jésus fait bien plus. Alors le mot « plus », c'est incomplet. Et pas très adroit de ma part, mais je ne sais pas comment dire, parce que ça ne veut pas dire que la croix est incomplète. Jésus a tout fait à la croix, entendons-nous bien. Mais l'amour de Christ pour toi ne s'arrête pas, enfin, voilà, c'est le cas de le dire, à la croix. Certes, il t'a sauvé, il t'a recréé, il te donne l'accès au royaume de Dieu, voilà, ça c'est sûr. Mais en plus, deux textes, Matthieu 28, 20, « Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis un esclave, je dois faire sa fonction, ma fonction. » Le monde est dur, hein. La Bible ne dit pas que c'est facile, hein, de vivre avec le Seigneur dans ce monde, parce que l'esprit du monde est mauvais, des créations. Il est animé par Satan et contre Dieu, évidemment. Donc, ce n'est pas facile de vivre sa vie de chrétien, d'être cet esclave qui accomplit sa fonction. Oui, et bien, en même temps, simultanément, et ça, c'est vrai, tu as un maître qui est tous les jours avec toi. Et bien, moi, dans l'Antiquité, je n'ai jamais vu ça. Et je vous demande de voir ça. Vous croyez qu'un maître va accompagner dans la pétaudière où vous êtes pour accomplir votre tâche? Non. Au contraire. À l'esclave de le faire, moi je fais autre chose, hein, de noble, entre guillemets. Hein. Eh bien non, notre maître est avec nous là où nous travaillons pour lui. Ben, évidemment, il faut faire sa volonté, hein, évidemment, évidemment, évidemment. Hein. Mais là où je vis, là, quand je fais ma fonction ou mes fonctions, donc je réalise mon être, ma situation, eh bien j'ai Dieu avec moi. Christ, c'est Dieu, regardez. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas, il est avec toi à ta conversion, ton baptême, ah oui, autant fort. Non, non, c'est tous les jours. Tous les jours. C'est extraordinaire, ça. Alors, croyez-moi que la grâce surabondante de Dieu, elle est vraiment extraordinaire. Et on va prendre un dernier texte, c'est Apocalypse 3.20. On va le lire. Apocalypse 3.20. Voici, c'est Jésus qui parle hein, dans sa révélation à Jean. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. La porte. Il annonce ça par rapport à la vie chrétienne. La porte de ton cœur, évidemment. Hein. À la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un, quiconque, entend ma voix et ouvre la porte, donc de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On ne s'arrête pas assez sur ce verset. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Déjà, l'offre de salut, et tu l'acceptes ou non. Ouais, mais il y a bien plus que ça. On escamote, là, ce que fait Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il vient? Eh bien, Jésus, il vient qu'un panier repas. Parce que vous avez vu, je souperai avec lui. Qui est-ce qui mène l'action? C'est pas celui qui vous... Oh, mon ami, je vais t'inviter, ah oui, je sors la bouteille. Mais pas du tout. Non, je souperai. Il vient avec un repas, avec un bon vin. pas du jus de raisin, un bon vin, un très bon vin, un très bon plat. Il vient avec ça. Et il invite évidemment à que le frère ou la sœur partage. Vous voyez un peu ? Notre Seigneur non seulement nous sauve à la croix, nous justifie, nous délivre de nos péchés, etc., nous amène la bienveillance de Dieu, nous accompagne tous les jours, mais en plus, il nous donne à manger des choses excellentes. On connaît, c'est quoi ? C'est la vie plénière divine créatrice qui ne s'use pas. La vie, la puissance de vie. La puissance de vie. Et dans le symbole de la scène, ce pain et ce vin, le corps de Christ, il y a aussi cette dimension. Cette dimension. Jésus te nourrit. Et croyez-moi, il vous donne un très bon régime. Hein. C'est un très bon régime. Ce n'est pas un régime qui nous détruit. C'est un régime qui nous construit. Qui nous construit. Parce que je lis une quantité de versets qui me dit, lorsque je suis la grâce du Seigneur, lorsque j'accomplis la tâche du Seigneur, lorsque je fais la volonté du Seigneur, je reçois, je vis dans la paix et dans la joie. Dans la vie et la paix. Conclusion. L'homme naturel, celui qui ne s'est pas encore converti à Jésus-Christ, est un homme, dit la Bible, incomplet. Et il ne peut pas plaire au Seigneur. Romains 8, 7. Il n'a pas la capacité de plaire au Seigneur parce qu'il se détourne de lui. Faut être conscient de ça. Tant que je ne me suis pas converti à Christ, je ne fais pas la volonté du Seigneur et je ne participe pas à son plan de salut. Il y a un problème. Il y a un problème parce que j'ai été créé pour ça. J'ai été créé pour gérer la terre. Il y a un problème. Si je me laisse, si j'ouvre la porte de mon cœur, si je me convertis à Jésus-Christ, eh bien je suis recréé, reconstruit. Et je deviens un homme achevé. Je reçois ma partie céleste. Le Saint-Esprit me conduit. Je reçois cet Esprit céleste qui me manquait. Et j'étais inutilisable, comme Onésime avant la conversion. Et tant que tu restes comme ça, ça ne va pas du tout. Hein. Parce que tu es en décréation et tous les jours que tu vis, c'est une grâce du Seigneur. Tous les hommes qui vivent actuellement, c'est une grâce du Seigneur de laisser ce monde vide alors qu'il est plein de péchés, de décréation et de violence. C'est une grâce du Seigneur. Mais un jour, tout le monde, comme tu l'as rappelé, passons devant Jésus. As-tu accepté le Sauveur, Jésus-Christ, ou non ? Si je l'accepte, je deviens utilisable et utile. Je suis utile. Sortez en disant, et les jours de la semaine, je suis utile. Et dans mes fonctions que j'accomplis pour le Seigneur, je suis efficace, de bon usage. C'est quand même formidable, même si je suis pécheur, parce qu'à côté, il y a le péché, évidemment. Mais il y a cette réalité aussi, là. Je suis d'un bon usage. Je suis utile. Utile pourquoi ? Utile pour l'avancement du règne de Dieu dans le monde, ce royaume de Dieu rendu proche, qui est l'objet du salut. Et aussi, la Bible explique, dans l'Église, dans la communauté des frères et des sœurs, nous sommes les uns et les autres disponibles pour nous aider les uns les autres à remplir nos fonctions respectives. À nous encourager, nous épauler, nous dynamiser. C'est une mission de l'Église, ça. C'est une mission de l'Église. Par contre, est-ce que je suis utile à Dieu ? Réponse, parabole du serviteur inutile, Luc 17, verset 1, je pense que peu importe le verset, c'est dans Luc 17. Non, je suis un serviteur inutile pour Dieu. Non pas que je travaille mal et que je suis mauvais, etc. Mais non, Dieu n'a besoin de rien. Dieu est Dieu, il a tout créé. Puis en plus, il ne faut jamais oublier. Toi, moi et tout le monde, hein, on est créé par qui ? Par Dieu. Tout ce que nous avons, tout ce que nous avons reçu, cet équipement, ces talents, etc., tout ce qu'on disait, hein, cette recréation, ce sont des dons de Dieu en Christ. Tout ça, c'est des dons. Donc, en fait, on n'apporte rien à Dieu. On ne fait que vivre ce que Dieu veut, c'est tout. Donc, on est inutile pour Dieu. Mais en même temps, je répète, nous sommes utiles pour le monde. Pour le changer, parce que Dieu aime le monde. Apprenez à regarder différemment ce monde. il fonctionne mal. Oui, mais c'est le monde de Dieu, c'est la terre de Dieu. Et il va la purifier, il va la recréer, il va installer son royaume lorsqu'il reviendra. En attendant, nous sommes comme des arts du salut, des prémices du salut. Nous, Romains 8 nous raconte que c'est la préparation de l'accouchement, de la nouvelle création, le temps actuel. Voilà. Je voudrais vous encourager à remercier notre Dieu pour cette belle création qu'il nous a fait, et en même temps sa miséricorde, sa mansuétude, parce qu'on est pécheur, on accomplit mal nos fonctions, il fait avec, parce que tout a été payé à la croix. Il fait avec, il nous aime. Tenez-vous bien, la Bible dit même que tu es irréprochable. Tu es irrépréhensible, irréprochable. Je parle pour ceux qui se sont convertis à Christ, hein, et qui font le service du Seigneur, évidemment. Par contre, un questionnement. Je me dis chrétien, est-ce qu'effectivement je suis cet esclave qui accomplit la fonction ou les fonctions qu'il m'a déterminées? Réfléchissons à ça, c'est important. On peut des fois s'illusionner et vivre dans une ambiance d'église et croire qu'on est chrétien. Mais non, chrétien, c'est un engagement avec le Seigneur et c'est la réalisation de ton être personnel. Voilà, et dernière chose, chacun d'entre nous, même pécheur, nous avons de la dignité. Parce que Dieu t'a créé avec une excellence de l'être, c'est ta fonction, c'est ta partie céleste, traduit dans nos Bibles, par l'histoire de l'Église, par vertu. Il y a de force derrière. Mais le mot grec, c'est excellence de l'être. Oui, même pécheur, Dieu a fait une créature qui allait devenir pécheresse, n'empêche qu'il l'a fait d'une qualité extraordinaire. Irénée de Lyon disait... Mais le plus grand miracle de la création, ce n'est même pas les anges et ce foisonnement infini de la création qui fonctionne, hein, qu'on admire, c'est cette petite créature appelée homme, humain, appelée à gérer la terre alors qu'elle est si faible. Et qu'il en donne les moyens avec donc, le Saint-Esprit lui-même nous aidant. Voilà.